Dans quelques instants, la revue de presse africaine, mais d'abord les grands titres de l'actualité de ce mardi 22 octobre. 11e tournée au Proche-Orient depuis le début de la guerre à Gaza pour le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Il est d'abord attendu aujourd'hui en Israël pour porter l'espoir d'un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Mais la Maison-Blanche se veut moyennement optimiste sur la perspective immédiate de nouvelles négociations. L'armée israélienne poursuit en tout cas ses frappes également au Liban. Elle dit avoir visé près de 300 cibles du Hezbollah au cours des dernières 24 heures. Le Hezbollah qui, de son côté, dit avoir visé ce matin une base navale près d'Haïfa dans le nord d'Israël, ainsi qu'une base du renseignement israélien dans la banlieue de Tel Aviv. Des exercices chinois à munitions réelles ce matin près de Taïwan, une menace qui sape la paix et la stabilité régionale, a dénoncé le Premier ministre taïwanais. Et puis première séance plénière hier à Cali en Colombie, où s'est ouverte la COP 16 de biodiversité. 140 ministres et une douzaine de chefs d'État sont attendus sur place jusqu'à la fin du mois. La revue de presse africaine, bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour à tous.
Et à la une, Paul Biya, le retour.
Il est là, s'exclame Cameroun Tribune en première page avec cette photo montrant le président camerounais à son arrivée à l'aéroport de Yaoundé depuis Genève, en compagnie de son épouse Chantal à la chevelure rousse flamboyante. Dans un contexte de rumeurs malveillantes sur son état de santé, relève le quotidien camerounais, les populations sorties massivement pour la circonstance ont réservé un accueil des grands jours au chef de l'État le long de l'itinéraire de l'aéroport international jusqu'au palais de l'Unité. Il faut dire que Paul Biya, 91 ans officiellement, n'était plus apparu en public depuis son départ de Pékin début septembre à l'issue du sommet Chine-Afrique. Le 8 octobre, rappelle Le Monde Afrique, après une série de rumeurs alarmantes, le gouvernement camerounais avait assuré que Paul Biya se portait bien et rejoindrait le Cameroun dans les prochains jours. Le ministre de l'administration territoriale avait ensuite formellement interdit aux médias d'évoquer l'état de santé du président en menaçant les contrevenants de poursuites. Depuis, des rumeurs annonçant son retour immédiat par deux fois la semaine dernière, contredite par d'autres rumeurs allant jusqu'à annoncer sa mort, ont circulé sur les réseaux sociaux.
Alors cette fois-ci, c'est la bonne, constate Jeune Afrique.
Oui, Jeune Afrique qui affirme que lors du séjour suisse de Paul Biya, des tensions ont éclaté au sein du cercle rapproché du chef de l'État, en particulier autour de Chantal Biya, laquelle s'est opposée à certains collaborateurs de son mari. La première dame a notamment reproché à Samuel Mvondo Ayolo, directeur de cabinet du président, d'avoir divulgué à certains de ses proches des informations confidentielles sur l'état de santé du président. Des tensions venues s'ajouter, croit savoir Jeune Afrique, à celles nées de difficultés financières liées au séjour présidentiel en Suisse, alors qu'elle finance habituellement les déplacements du chef de l'État grâce à ses comptes en Europe. La Société nationale des hydrocarbures aurait rencontré des obstacles et des agents du service financier du cabinet civil de la présidence ont dû être dépêchés d'urgence à Genève. La famille présidentielle, relève encore Jeune Afrique, a d'ailleurs discrètement quitté ces derniers jours l'hôtel intercontinental pour poursuivre son séjour dans une résidence privée proche du lac Léman.
En tout cas, Frédéric, cette absence prolongée de Paul Biya et l'opacité entretenue par son entourage ont provoqué et provoquent toujours d'ailleurs bien des réactions.
Oui, que nous apprend ce retour ? Eh bien, tout au plus que le président camerounais est encore vivant, commente le Djeli en Guinée, contrairement à ce que certains avaient déjà annoncé. Pour le reste, le débat demeure et tous les doutes sont permis. Et par conséquent, la question de fond reste posée. Quid de l'après Paul Biya ? Parce qu'à presque 92 ans, que le veuille ou pas le président et ses partisans, la fin est proche. En cela, ces soucis de santé que l'on tente de masquer ou de minimiser à grand renfort de communication et de propagande ne sont que des alertes que Paul Biya lui-même devrait entendre et comprendre en toute lucidité. En effet, enchaîne le site Cameroun Magazine, la question de la succession du pouvoir est un enjeu majeur pour tout le pays et le Cameroun ne peut pas faire l'impasse sur cette étape cruciale. La nécessité d'une transition du pouvoir bien préparée est essentielle pour maintenir la paix civile et éviter le chaos. Il est temps pour les dirigeants de prendre leurs responsabilités et de planifier l'avenir du pays de manière sereine et constructive.
Et aujourd'hui, à Ouagadougou, renchérit.
Avec 42 ans de pouvoir au compteur, le biaïsme laissera probablement une succession très corsée à gérer. Ce fut le cas avec Oufouette, avec Mobutu, avec Compaoré, avec Eyadema. L'après-Biya est tabou, penser sans en parler, sauf qu'il y a le destin de tout un pays dans la balance. Enfin, pour le pays, toujours au Burkina Faso, il est grand temps. Après tant de décennies de règne sans partage, Paul Biya gagnerait à faire enfin valoir ses droits à la retraite. Franchira-t-il le pas ? Pas si sûr, répond le journal, tant tout porte à croire que l'homme se donne toutes les chances de mourir au pouvoir. Il est même à craindre qu'il ne cède aux sirènes des Raspoutines, qui l'appellent à briguer un nouveau mandat. Eh bien, on attend de voir.
Merci Frédéric Couteau et à tout à l'heure, vous revenez après le journal de 9h pour la revue de presse internationale. C'est l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie, se targue le Kremlin. Le sommet des BRICS s'ouvre aujourd'hui dans l'ouest du pays, à Kazan, sur les rives de la Volga. Une vingtaine de dirigeants étrangers sont attendus sur place, les pays membres bien sûr, l'Éthiopie et l'Égypte notamment qui le sont depuis cette année, mais aussi des pays qui candidatent pour rejoindre ce bloc qui entend faire contrepoids à l'Occident et puis mettre fin à l'hégémonie du dollar dans le commerce international. Alors quel est l'enjeu de ce sommet des BRICS? On en parle ce matin avec l'invité de la rédaction africaine, Hamedou Ould Abdallah, ex-ministre mauritanien des Affaires étrangères, qui préside aujourd'hui une société de conseil, le centre 4S, stratégie sécurité Sahel et Sahara. Il répond à Christophe Boisbouvier.
Hamedou Ould Abdallah, bonjour.
Bonjour.
Vu d'Afrique, est-ce que l'avenir est avec l'Occident ou avec les BRICS?
L'avenir est avec les libertés politiques à l'intérieur des pays, liberté d'expression, de gestion, les libertés de mouvement dans l'espace. Alors, les Africains, comme on le dit l'expression populaire, ils votent pas leur pays. Ils émigrent où? Ils émigrent la plupart du temps en Amérique ou en Europe. Même si cette migration est de plus en plus rejetée en Europe, je pense que le sentiment des Africains est pour la liberté de mouvement, de commerce. Donc pour les pays où cela est possible, et ça se trouve en Occident effectivement.
La grande ambition des BRICS, c'est de mettre fin à l'hégémonie occidentale sur les marchés financiers et de trouver une alternative au dollar. Est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver?
D'abord, aujourd'hui, la puissance du dollar, c'est surtout l'économie américaine. Et la plupart des grandes économies, l'Arabie Saoudite par exemple, la Chine, ont leurs réserves en dollars au Federal Reserve Board. Quand on regarde le commerce, le dollar doit être à 60% des échanges et des réserves. Mais si on ajoute les monnaies alliées, l'euro, le sterling et le yen, c'est très probablement proche de 80% des échanges mondiaux qui s'effectuent dans ces devises. L'idée de créer des monnaies alternatives, je pense, ça prendra du temps.
Alors la nouveauté cette année à Kazan, c'est notamment l'arrivée dans les BRICS de deux nouveaux pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie. Pourquoi ces deux pays? Pourquoi pas tous les autres pays du continent qui se sont portés candidats?
Alors, l'Égypte et l'Éthiopie, c'est des pays voisins qui ne sont pas souvent amis à propos du Nil. Est-ce que le but est de les aider à se réconcilier? Ces deux pays très peuplés, même si le Nigeria est beaucoup plus peuplé, ont leur place dans cette institution et ils ont des régimes aussi qui vont beaucoup plus avec les régimes russes et chinois dans la gestion de l'économie, c'est-à-dire l'économie nationale beaucoup moins libérale.
Certains pensent que l'Éthiopie a été préféré au Nigeria parce que le Nigeria abriterait une branche du système de commandement américain et parce que le Nigeria est en compétition économique avec l'Afrique du Sud.
C'est très possible, mais ce que je connais du Nigeria, ils sont autosuffisants sur le plan politique et diplomatique. Je pense que les Nigériens sont très introvertis.
Il y a 2 ans, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé l'entrée prochaine de l'Algérie dans les BRICS, mais rien n'est venu et aujourd'hui le chef d'État algérien déclare que son pays ne souhaite pas intégrer un groupe dans lequel il n'est pas désiré. C'est vrai, dit-il, on a déposé notre candidature il y a 2 ans, mais avec la tournure que prend cette organisation, notre volonté a changé. Peut-on parler d'un revers diplomatique pour l'Algérie?
Si l'Algérie l'a vu comme une continuation des G77, des groupes de non-alignés où elle a joué un rôle important, effectivement, cet objectif n'a pas été atteint.
Est-ce le signe que l'Algérie pèse moins qu'avant dans les relations internationales?
Bon, depuis la guerre civile, l'Algérie a eu à se pencher beaucoup plus sur les problèmes internes, mais la plupart des pays de ma région ont des préoccupations plus internes qu'externes.
En coulisses, à Alger, on accuse un pays des BRICS d'avoir mis son veto à l'entrée de l'Algérie dans ce club, et cela sous les ordres d'un modeste émirat du Golfe, précise le journal El Moudjahid. Quels sont ces deux pays, Hamedou Ould Abdallah?
Alors, sur le fond du problème, je ne suis pas au courant d'un malentendu entre l'Algérie et l'un de ces pays, en l'occurrence le Qatar ou les Émirats arabes. Oman n'est pas concerné.
Vu les bons rapports entre le Maroc et les Émirats, n'est-ce pas justement ce pays, les Émirats, qui est visé par l'article d'El Moudjahid?
Je crois que ce qui est important, c'est d'être dans les BRICS, s'ils peuvent ouvrir des perspectives à tous nos pays, y compris les productions énergétiques d'Algérie ou les productions agricoles et de phosphate du Maroc. Et je pense que le mérite du Maroc et de l'Algérie, c'est ne pas s'entendre, mais Dieu merci, ils se refusent à faire une guerre ouverte comme leurs frères et cousins du Moyen-Orient. Et je pense que cet aspect doit continuer, quels que soient les appuis financiers, militaires, diplomatiques qu'ils entreprennent. Et j'espère bientôt qu'ils ouvriront leurs frontières. Les populations qui sont très liées pourront aller rapidement d'un endroit à l'autre comme ils le faisaient au cours des siècles et des dernières décennies.
Hamedou Ould Abdallah, merci.
Ex-ministre mauritanien des Affaires étrangères, désormais président du Centre 4S, Stratégie, Sécurité, Sahel et Sahara. Il était interrogé par Christophe Boisbouvier. Un entretien à retrouver sur RFI.fr. Un prochain journal dans 6 minutes sur RFI. Mais d'abord, votre chronique Maman. Et ce matin, vous nous dites que dans la cour de récré, il y a un enfant qui a tous les droits.
Oui, ce n'est pas à vous que j'apprendrai, chers amis, que notre cher et tendre cour de récré est un écosystème incroyable avec la biodiversité la plus riche de l'univers. La vie y est florissante, les espèces nombreuses, variées et toutes plus surprenantes les unes que les autres. Elle est là, notre cher et tendre cour de récré, immuable, quoique, avec son carré VIP, de son nom d'artiste, la communauté internationale, le carré VIP et son boss Joe qui est en fin de CDD d'ici 2 semaines. Le carré VIP, composé de Manu, le jeune homme de 46 ans, qui, cet été, a gagné les élections tout en les ayant perdu. Oui, je sais, c'est compliqué. Puis, il y a Olaf, le petit d'Angela, Kerr de Londres, qui a succédé à Rishi, qui lui-même venait après Bojo de Brexitman, sans oublier la blonde Georgia de Rome. Georgia, la Marine Le Pen qui a réussi. Et de l'autre côté, ou plutôt en face, on a le préau, fief de Vlad le Costaud, ceinture noire de judo, qui reçoit aujourd'hui ses camarades des BRICS pour faire du préau un grand mur, brique après brique, avec son acolyte Xi Jin, maître Shaolin, le vrai boss de ce futur mur des BRICS. Ces deux camps, le carré VIP d'un côté et le préau de l'autre, se sont toujours regardés en chien de faïence, chacun soupçonnant l'autre de vouloir lui faire un petit pont à l'improviste, comme au bon vieux temps de la guerre froide. Mais, je vous l'ai dit, notre cher et tendre cour de récré est un vrai organisme vivant où ça pulse, ça jaillit de ci et de là, comme un vrai geyser. C'est ainsi qu'entre le carré VIP et le préau, on a vu surgir un troisième bloc, pas le bloc central, mais le sud global, avec tous ceux qui ne sont ni dans un camp ni dans l'autre, le sud global, regroupant tous les autres, ceux qu'on a appelés les non-alignés, le tiers-monde, les pays pauvres, les pays du Sud, etc. Le Sud global qui voit ses membres les plus friqués passer dans les BRICS comme un surclassement de la classe éco à la classe affaires ou comme quand les classes moyennes quittent les tours HLM non imposables pour la zone pavillonnaire imposable. Dans notre cher et tendre cours de récré, il y a des incontournables, des membres comme Z de Kiev, l'ex-enfant préféré du carré VIP, au chevet duquel ses grands frères avaient accouru après que Vlad le Costaud lui est tombé dessus pendant la récréation. Aussitôt dit, aussitôt fait, les grands frères se sont interposés et ont même pris pour eux la bagarre du petit Z de Kiev contre Vlad le Costaud. Mais dans le hit parade des enfants préférés, Z a très vite été détrôné par celui qu'on appelle « a le droit de se défendre ». A le droit de se défendre qui n'a fait que reprendre sa place de chouchou du carré VIP. A le droit de se défendre et comme un enfant qui vit dans une maison avec ses grands-parents. L'enfant peut tout faire toutes les bêtises du monde. Papy et mamie interdiront à quiconque de lui crier dessus à plus forte raison le toucher. Dans la cour de récré, a le droit de se défendre est devenu a le droit de tout faire. Comme chez papy et mamie, il peut frapper, griffer qui il veut, s'asseoir où il veut et puis il n'y a rien. Ainsi va la vie dans notre fameuse cour de récré avec ses grands et ses petits, ses forts et ses faibles, ses fils préférés et les autres. À demain.
À demain, maman. À demain, c'est pour Maman, hein. Mais à tout de suite pour vous qui nous écoutez parce que le journal arrive dans 2 minutes. On va parler du sommet des BRICS qui s'ouvre en Russie. Vladimir Poutine attend une 20aine de chefs d'État et de gouvernement. À tout de suite sur la Radio du Monde.
De voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
scandale des pollutions pétrochimiques en Sicile, comment les habitants s'accommodent-ils de la situation?
Demain,
apprendre à lire est un véritable défi pour les enfants et une épreuve pour les parents. Est-il possible d'apprendre à lire en s'amusant?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Tous les sports sur RFI avec Annie Gasnier et Hugo Moissonnier.
Il n'y a pas que le football dans la vie.
Le sport, tous les jours sur RFI, du lundi au vendredi, Radio Foot et le Café des Sports à 16h10, temps universel.
Le samedi et le dimanche, Mondial Sport, à la même heure, des invités, des reportages pour évoquer les exploits aux quatre coins du globe. Radio Foot, c'est avec
Annie Gasnier, Mondial Sport avec
Hugo Moissonnier.
C'est sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI.fr.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Grand corps malade aime la nostalgie. Il consacre un film à la vie de Charles Aznavour et chante ce sentiment dans son dernier album « Plus de reflets ». Celui qui a popularisé le slam raconte les bonheurs simples, la ville de son enfance, Saint-Denis, et le plaisir des mots.
Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.